Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence, actualité oblige. Ce numéro sera presque entièrement consacré aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, une manifestation qui se referme ce dimanche à Marrakech. Principale information à retenir, l'Afrique a désormais droit à un troisième siège au sein du conseil d'administration du FMI. Nous en parlons dans quelques instants. Et notre destination éco nous mène en Côte d'Ivoire. Nous serons sur place pour parler de l'évolution du secteur de l'élevage. Ce sera avec notre correspondant sur place, Hippolyte Dié. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mettons le cap donc sur Marrakech, la ville ocre où se referment ce dimanche les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, un événement plein de faits marquants, parmi eux la publication de nouvelles prévisions de croissance par le FMI. Selon le Fonds monétaire international, la croissance en Afrique subsaharienne en 2023 devrait chuter pour la deuxième année consécutive. Elle devrait s'établir à 3,3% contre 4% l'année dernière. Toutefois, le PIB africain pourrait rebondir à 4% en 2024 selon l'institution financière internationale qui note que 2023 a été une nouvelle année difficile pour l'activité économique des pays d'Afrique subsaharienne. Écoutons Abebe Aimro Selassie, il est le directeur du département Afrique au Fonds monétaire international.
Effectivement, l'année 2023 est très difficile pour de nombreux pays africains avec une baisse de la croissance de 4 à 3,3% sur notre continent cette année. Mais l'horizon apparaît comme étant plutôt dégagé, particulièrement si l'on prend en considération ces indicateurs qui font apparaître une forte reprise de l'activité dans une grande majorité des pays d'Afrique.
So there is light on the horizon. Restons à Marrakech où la finance africaine était présente en force. Le Fonds africain de solidarité en fait partie, une institution qui attend l'adhésion du Maroc pour passer à 22 États membres. Je vous propose d'écouter son directeur général Abdourahmane Diallo.
Le Fonds de solidarité africain, je disais, c'est une institution multilatérale africaine qui regroupe actuellement 21 États membres. Et bientôt 22 avec l'adhésion du Maroc qu'on attend avec beaucoup de bonheur, on les recevra. Le Maroc est quand même un pays frère. Voilà. Donc on est actif dans la garantie, mais on fait également du refinancement et de la bonification de taux au profit des entreprises de nos États membres. Mais lorsqu'on vient à ce type de rencontre, on vient avec un agenda. D'accord. On sait ce qu'on veut, ce qu'on y recherche. On a des contacts parce que ça présente l'avantage de regrouper pas mal de décideurs dans un même endroit. Donc c'est l'occasion rêvée pour des institutions comme les nôtres de pouvoir venir rencontrer les uns et les autres, communiquer sur ce qu'on fait, capter les opportunités d'affaires et puis travailler sur les perspectives qu'offrent les uns et les autres.
Coémergence, l'invité.
C'est l'autre principal fait marquant de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. L'Afrique passe à 3 sièges au sein du conseil d'administration du FMI. On en parle avec Mabouba Diagne, il est le vice-président de la Banque de développement et d'investissement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bonjour à vous. Mabouba Diagne, bienvenue dans Coémergence. Alors, quelles sont d'abord vos impressions quant à la qualité de l'organisation de ces assemblées annuelles ici à Marrakech?
D'abord, permettez-moi de remercier tout le Maroc, les autorités, la population pour l'exemplarité et la réussite de l'organisation. Quand on est venu ici, on a trouvé des standards internationaux. Et je me profite de féliciter le Maroc et de montrer que l'Afrique est à la hauteur et peut organiser des événements de renommée internationale. Bravo au Maroc.
C'est important à souligner, sachant que ces assemblées sont organisées à Marrakech un mois après le séisme d'Al Haouz, qui avait aussi été ressenti dans la ville de Marrakech. Alors, ces assemblées prennent fin ce dimanche. Est-ce que les attentes africaines sont satisfaites, Mabouba Diagne?
Aujourd'hui, les priorités de l'Afrique, c'est quoi? C'est se nourrir, avoir de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, se soigner et créer de l'emploi pour sa jeunesse. Permettez-moi de vous dire que la Banque mondiale a trois guichets. Il y a le guichet privé qui est AFC, il y a IDA qui plus ou moins s'occupe des pays les moins développés, et il y a aussi MIGA qui est plus ou moins sa branche assurance. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que la Banque mondiale, en faisant travailler ces guichets d'une manière relativement coordonnée, relativement intelligente, pourrait travailler ensemble avec les banques de développement locales, les banques de développement régionales, les banques commerciales pour résoudre ce problème-là. Je vous donne un petit exemple. Le Sénégal importe plus ou moins entre 900 000 tonnes et 1 million de tonnes de riz. Il suffit d'aménager pas plus de 200 000 hectares pour que le Sénégal soit autosuffisant. Peut-être la Banque mondiale, dans le passé, a eu à travailler avec les gouvernements. Peut-être c'est le moment de booster et de réorganiser leur mode d'intervention en Afrique en faisant du blended finance, en accompagnant d'une manière un peu plus expéditive le secteur privé avec l'accompagnement de l'État pour s'adresser et résoudre ces trois problèmes dont je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, en boostant l'agriculture et l'agro-industrie, on résout le problème de l'autosuffisance alimentaire qui est devenu maintenant de la souveraineté alimentaire.
Alors Mabouba Diagne, une dernière question. Quelle réaction après l'attribution d'un troisième siège à l'Afrique au sein du conseil d'administration du FMI?
Non seulement je le cautionne, il est temps que qu'une institution internationale comme la Banque mondiale ait un président africain. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Tant que ce sont les autres qui nous dirigent, je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas nos priorités, mais ils ne les vivent pas. Il est temps qu'une organisation comme la Banque mondiale soit dirigée par un Africain. Et on verra la suite. Il y a déjà des avancées. On sait que M. Makhtar Diop dirige AFC. Mais peut-être il est temps maintenant qu'on monte d'un cran.
Merci à vous, Mabouba Diagne. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Banque de développement et d'investissement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous restons toujours à Marrakech. Cette fois, c'est avec l'envoyé spécial de Medi 1 TV, l'excellente consoeur Ilham Berrada. Ilham Berrada qui a rencontré Demba Diallo. Il est le directeur du développement des projets d'Africa 50. Je vous propose d'écouter leur entretien.
Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent ici à Marrakech. Et depuis le début de cette réunion d'envergure ici à Marrakech, le Maroc et l'Afrique sont au cœur des débats. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Demba Diallo, qui est le directeur général de développement des projets donc à Africa 50 et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Je sais que vos journées sont très très longues et vous avez quand même trouvé le temps de nous accorder ce petit entretien. Donc, Monsieur Diallo, quelles sont un peu vos impressions au bout de ces 4 jours de travail ici à Marrakech?
Merci beaucoup de nous avoir chez Medi 1 TV. C'est toujours un plaisir donc de m'adresser à vous et plus largement donc à la population marocaine et africaine qui vous suit. Donc ces 4 jours ont été 4 jours intenses, mais 4 jours utiles où nous avons pu rencontrer nos partenaires, actionnaires, partenaires dans le cadre des projets que nous mettons en œuvre et aussi où nous avons pu participer à des discussions qui sont importantes donc pour les pays africains que nous servons.
Alors, comme vous me l'avez expliqué juste auparavant, donc Africa 50, on va dire, l'idée a germé en 2013. Vous êtes opérationnel, je crois, depuis 2016. Est-ce qu'on peut donc juste présenter à nos téléspectateurs un peu l'état de ces 6 ans, quel état des lieux vous pouvez faire et quels sont sur les projets sur lesquels vous êtes opérationnel?
Africa 50 est une plateforme d'investissement créée dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et donc qui a été mise en œuvre à travers la BAD, dont le président est le président du conseil d'administration d'Africa 50. Et notre mission, c'est d'accélérer donc la mise en place des infrastructures en Afrique. Et donc, nous sommes opérationnels depuis 6 ans. Nous avons investi dans des projets qui ont une valeur totale d'un peu plus de 6 milliards de dollars. Et ces projets couvrent en fait tous les domaines des infrastructures, de l'énergie au transport, donc en passant aussi même par les infrastructures d'éducation avec la Holjet dans laquelle nous avons investi ici au Maroc. Donc nous avons pu à 6 ans réellement prouver que nous pouvons faire des choses en Afrique et notamment toute la partie développement de projets qui est un des secteurs qui est le plus difficile et sans lequel il n'y a pas d'investissement dans des projets.
Alors, Africa 50, une toute dernière 50. Africa 50, qui sont vos partenaires? Qui sont les pays et membres? Et très brièvement, comment ça fonctionne?
Bon, nous avons 31 actionnaires, donc 31 pays et institutions africaines qui sont nos actionnaires, dont le Maroc, donc où notre siège est basé ici à Casa. Et donc, nous avons 2 structures qui sont des sociétés classique avec conseil d'administration et comité d'investissement comme toutes les institutions. Et donc dans le cadre de notre travail, nous travaillons beaucoup avec les pays pour mettre en place des projets d'infrastructure en PPP, donc où nous allons prendre les projets dans le cadre du project development, du concept et amener le projet à la bancabilité. En faisant l'ensemble des études, tout le process technique, financier, de structuration de la dette et pour attirer les investisseurs. Et nous continuons en fait avec le deuxième bras armé d'Africa 50 dans l'investissement auprès des partenaires pour que le projet ne s'arrête pas. Donc, et récemment, nous avons mis en place un programme de recyclage d'actifs donc, qui est un outil de refinancement des projets que les pays ont eu à faire sous leurs propres ressources. Et donc, on donne des ressources aux pays et on prend à concession ces actifs-là permettant aux pays de réinvestir dans les infrastructures ou de rembourser la dette qui a servi à construire l'infrastructure.
Monsieur Demba Diallo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes le directeur général développement des projets à Africa 50. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup. Et donc, voilà, donc monsieur Demba Diallo qui nous a fait le plaisir donc de nous accorder cet entretien. Et bien évidemment, il est présent depuis le premier jour donc de ces assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiennent ici à Marrakech, à Babirli.
Merci à vous, Ilham Berrada. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Midi 1 TV à Marrakech.
Zoom Express.
Et nous mettons le cap sur l'Afrique australe pour retrouver l'économiste François Conradi. François Conradi nous fait la météo de la situation économique de cette sous-région de notre continent.
L'Angola, bien plus petite, une économie de 130 milliards en PIB environ, très dépendante du pétrole. Les autres économies de la sous-région sont bien plus petites et celles qui sont les plus intéressantes sont celles qui dépendent des ressources. Donc il y a le Mozambique où il y a le charbon qui domine et où en ce moment il y a beaucoup de développement dans le gaz naturel offshore dans le nord du pays, mais ce sont des développements qui sont affectés par un problème de terrorisme dans la région, et la Zambie, où c'est le cuivre qui domine, mais où il y a eu des problèmes de dette qui viennent de plusieurs années de mauvaise gouvernance. Au Botswana, les diamants sont importants, et pour le reste, ce sont des petites économies qui dépendent en grande mesure des transferts de leurs résidents qui habitent en Afrique du Sud et qui renvoient de l'argent chez eux.
Alors, je pense que vous venez de nous donner quand même un tableau extrêmement important pays par pays, mais globalement, Comment se porte cette sous-région sur le plan économique?
En ce moment, l'envolée des prix de matières premières bénéficie aux économies qui dépendent de ces matières. Donc, en ce moment, l'Angola se porte particulièrement bien. L'envolée des cours du pétrole permet au gouvernement de recycler ses pétrodollars par l'économie à travers des projets d'infrastructure. Et le Mozambique exporte du charbon, matière bien sûr controversée pour ses effets sur le climat, mais qui est recherchée en ce moment. L'Afrique du Sud souffre de problèmes de corruption dans le gouvernement, d'une manque de sécurité qui inhibe l'investissement et aussi de délestage fréquent d'électricité. Pour le reste, comme j'ai dit, ce sont des pays qui dépendent des transferts de leurs résidents qui sont en Afrique du Sud. Alors, la faiblesse de l'économie sud-africaine affecte ces transferts et impacte de là sur ces économies. Il y a d'autres problèmes aussi. Il y a des sécheresses intermittentes qui affectent l'agriculture. Et partout, il y a des problèmes aussi de corruption qui ont tendance à inhiber l'activité économique.
Comme on le voit donc, ce sont des pays qui reposent surtout sur les matières premières. Justement, en parlant de cela, quels sont les secteurs qui sont les plus attractifs?
Il y a en ce moment beaucoup de buzz autour de découvertes de gaz naturel au large de la Namibie. Total Energy a annoncé une grosse découverte il y a quelques mois. Ces annonces font beaucoup parler et attirent beaucoup d'investisseurs potentiels dans le pays. Mais il faut souligner que ce sont juste des découvertes pour l'instant et que l'exploitation de ces ressources va prendre encore plusieurs années. En Afrique du Sud, il y a des opportunités dans les services. Alors, malgré les problèmes que j'ai énoncés, c'est toujours un pays dans lequel il y a pas mal de pouvoir d'achat disponible. Il y a des opportunités dans les services. Surtout que c'est un pays où, de manière relative, il est toujours moins difficile qu'ailleurs de monter une structure et de faire des affaires. Il y a aussi des opportunités dans la sous-région dans les technologies. Nous avons maintenant des câbles de fibre optique qui font le tour du continent et il y a donc beaucoup d'opportunités dans la construction des infrastructures qui connecteront les populations à ces câbles. Et en plus de ça, bien sûr, les opportunités pour les sociétés qui pourront jouer sur cette nouvelle connectivité pour vendre des films, des médias, pour connecter les gens et tout ce qui va avec cela.
Alors, on imagine que dans ce contexte, les obstacles à l'investissement ne manquent pas. François Conradi, parlez-nous justement de ces obstacles à l'investissement.
Alors, dans les obstacles, on peut citer la corruption en Afrique du Sud, dont j'ai fait mention. Cela décourage pas mal d'investissements. De même pour les problèmes d'électricité. Bien sûr, il est très délicat d'envisager un investissement en industrie dans un pays où on n'est pas sûr qu'il y aura de l'électricité tout le temps. Il y a aussi que les voyages deviennent plus compliqués. Il y a, par la suite, la crise du Covid comme partout dans le monde. Il y a des problèmes logistiques aux aéroports. Il y a des problèmes... Il n'est pas si facile que ça, ou moins facile qu'il ne devrait être, d'obtenir un visa, même malgré les promesses que les gouvernements ont fait pour faciliter les voyages pour les Africains sur le continent. Cette même corruption est présente dans beaucoup d'autres pays, et même lorsqu'il n'y en a pas, il y a une inefficacité du gouvernement. Dans beaucoup de pays dans la région, il est très difficile de s'implanter, d'obtenir les permis nécessaires pour monter une structure, pour parler obtenir de l'électricité, de l'eau et tout ça. Ce n'est pas toujours facile. Après, il y a un manque d'infrastructures. Nous avons toujours structurellement les infrastructures que nous avons héritées de l'époque coloniale qui servait surtout à transporter les matières premières depuis les gisements jusqu'à la côte, jusqu'au port. Donc, il y a toujours, pour les infrastructures qui pourraient servir à transporter des biens entre centres de production et de consommation, ce n'est toujours pas ce qu'on devrait avoir. Et après, il y a la pauvreté. Il y a un manque de pouvoir d'achat qui veut dire qu'il y a un manque de capacité des gens à acheter ce que chercheraient à vendre les entreprises.
Alors enfin, François Conradi, aujourd'hui, quels liens économiques sont possibles entre ces pays et des économies comme le Maroc, par exemple?
L'implantation de Sanlam au Maroc, suite à la fusion avec la SAHAM, est un présage des choses à venir. Je pense qu'on va voir de plus en plus de groupes de services, et surtout de services financiers sud-africains et marocains, trouver des terrains d'entente et réfléchir à des stratégies de collaboration à l'échelle continentale. Alors, je pense que c'est dans les services que nous allons le plus rapidement voir les liens continuer à se tisser. Il y a aussi eu récemment une annonce intéressante d'une collaboration entre l'OCP et Rainbow, qui est une société minérale sud-africaine. En termes de cette collaboration, l'OCP va encadrer des ingénieurs formés au Maroc pour aider Rainbow à extraire des terres rares dans un gisement de phosphate en Afrique du Sud. Ce qui est très intéressant, là où on voit une main-d'œuvre hautement spécialisée marocaine venir en aide à une société africaine pour un problème très, très particulier. Je pense qu'on pourrait voir de plus en plus de ça, des experts marocains venir en aide aux sociétés africaines dans les mines surtout, mais aussi il est possible qu'on voit ça dans l'agriculture, en une époque où le stress hydrique va devenir de plus en plus un problème vital pour les économies une collaboration sur la gestion des ressources en eau.
Merci François Conradi pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste senior pour l'Oxford Economics Africa. Vous nous parliez depuis la ville du Cap en Afrique du Sud.
Destination Éco.
En Côte d'Ivoire, les bouchers s'orientent de plus en plus vers l'élevage. Les professionnels estiment que ce business associé à la boucherie leur est plus bénéfique. Notre correspondant Abidjan Hippolyte Dié en a rencontré quelques-uns au cours du Salon de l'agriculture et des ressources animales qui s'est clôturé dimanche dernier à Abidjan. Écoutons son reportage.
L'avènement de la COVID-19 a contraint les bouchers et chevillards de Côte d'Ivoire à s'orienter de plus en plus vers l'élevage. Les frontières du pays ayant été fermées pendant plusieurs mois, ces derniers n'avaient plus accès aux bêtes issues des pays de la sous-région. Malgré la fin de cette crise, les habitudes sont restées. Les professionnels du secteur estimant que cette stratégie est encore plus bénéfique. Ils profitent en outre de plusieurs tribunes pour présenter leurs bêtes et valoriser leur métier. C'est le cas du Salon international de l'agriculture et des ressources animales où la filière était bien représentée. Rasman Zungrana.
Nous qui travaillons les bœufs qui faisons l'élevage, c'est à notre honneur de présenter ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous disons toujours que le Sahara est la bienvenue. Qui sont des animaux du Nigeria et du Tchad, où les gens avaient tendance à dire que cette zone vers Abidjan ne pouvait pas les réussir, à Djopé ou ne pouvait pas les réussir.
Rasman Zungrana est également président des bouchers et chevillards de la commune de Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, et totalise 25 ans d'expérience dans ce secteur d'activité. Il souhaite que le comité d'organisation du Sahara les mette davantage en lumière.
L'ambiance est très bonne. Nous avons de grands visiteurs. Nous avons des ministres qui sont venus nous encourager. Il y a tous ces élèves de l'école d'élevage qui sont venus nous rendre visite et ça nous va droit au cœur.
Au niveau des stands, nous découvrons Bachirou Akanfé, le représentant de l'Union régionale des coopératives de bouchers d'Abidjan et quelques membres de son bureau. Leur présence vise à nouer des contacts avec les éleveurs et prodiguer des conseils aux visiteurs.
Moi, je suis à la boucherie depuis 1970. Autant que le kilo de viande était 330 francs. La boucherie, c'est un travail rentable. nous lançons un appel aux jeunes qui n'ont pas encore de travail de venir auprès de nous pour venir apprendre. C'est un travail noble.
Pour rappel, en Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution de 4,5% au PIB agricole et 2% au PIB total. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Medi1.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Medi1 à Abidjan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medi1 Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituel. Bonne suite de programme sur Medi1 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.